au micro.
Idrissa Seroudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Les États-Unis annoncent des restrictions de visa contre les responsables et les complices de violences dans l'ouest du Cameroun, théâtre depuis 4 ans d'un sanglant conflit séparatiste opposant des groupes armés anglophones à l'armée. Ces sanctions visent ceux qui sapent la résolution pacifique de la crise, a indiqué hier le département d'État américain dans un communiqué sans nommer les personnes visées par cette interdiction d'entrer sur le territoire. Washington appelle les parties en présence à mettre fin à la violence et à engager un dialogue sans préalable pour résoudre pacifiquement la crise. Cameroun toujours, Human Rights Watch a demandé hier la libération d'un avocat camerounais des droits humains arrêté il y a une semaine et toujours en garde à vue pour, selon l'ONG, de fausses accusations d'incitation au terrorisme. Nicodemus Amungwa est connu pour sa grande implication dans la défense des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. La France a gelé son aide budgétaire à la République centrafricaine et suspendu sa coopération militaire avec ce pays, jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Abdourahmane Dia nous donnera les détails. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a prêté serment hier à Bamako en tant que nouveau président de la transition. Il a nommé premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nathalie Barge nous en parlera. 2 employés chinois d'une société minière ont été enlevés par des hommes armés à Mbanga, dans l'ouest du Niger, dans la nuit de dimanche à lundi, a dit hier à l'AFP le gouverneur de la région de Tillaberi, Tijani Ibrahim Katiela. Cette région est régulièrement frappée par les groupes djihadistes. Le conseil d'administration du FMI a approuvé hier un accord avec le Sénégal, avec à la clé une aide de quelque 650 millions de dollars sur une période de 18 mois. Selon l'institution, l'accord fournira un point d'ancrage des politiques économiques pour la prochaine phase de la riposte des autorités face au COVID-19 et soutiendra une reprise forte et créatrice d'emplois. Un décaissement immédiat d'environ 187 millions de dollars est prévu. Pour 2021, le Fonds monétaire international table sur une croissance sénégalaise de 3,7%. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a annoncé hier à Goma un retour progressif des dizaines de milliers de déplacés qui ont quitté cette ville après une éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai. 4 membres d'une famille musulmane ont été tués au Canada lors d'une attaque préméditée par un homme qui leur a foncé dessus au volant de sa camionnette dans le sud de l'Ontario, a annoncé hier la police qui soupçonne un acte islamophobe. Les autorités américaines ont annoncé lundi, chose très rare, avoir récupéré 2,3 millions de dollars de rançon versée par le groupe Colonial Pipeline à des pirates informatiques de DarkSide basés en Russie après une cyberattaque qui avait paralysé son immense réseau d'oléoducs. Le régulateur américain a annoncé hier autoriser un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer pour la première fois en près de 2 décennies. Nommé Aduhelm, il est produit par l'entreprise pharmaceutique Biogen. L'Organisation mondiale de la santé a demandé ce lundi aux fabricants de vaccins contre le COVID-19 de mettre à disposition du dispositif international COVAX la moitié de leur production de doses cette année. Pour coiffer au poteau ses adversaires dans la course au tourisme spatial, le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, va s'élancer le 20 juillet avec son frère et le gagnant d'une mise aux enchères dans le premier vol de tourisme de sa société Blue Origin. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seroudia. Restez à l'écoute. La suite de nos informations. Au Mali, Choguel Kokala Maïga a été nommé Premier ministre peu après l'investiture du colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition. Monsieur Maïga devra former une nouvelle équipe consensuelle pour gouverner jusqu'aux prochaines élections. Le point avec Nathalie Barge.
Choguel Kokala Maïga est une figure du M5-RPF qui a orchestré la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. En décembre, il avait qualifié les institutions de la transition de régime militaire déguisé. Mais la proposition du colonel Goïta de confier le poste de premier ministre au M5 lui est allée droit au cœur, a-t-il confié après le second coup d'État. Après avoir étudié les télécommunications en ex-Union soviétique dans les années 70, M. Maïga a occupé divers postes à la compagnie nationale Sotelma. Trois fois candidat à des présidentielles, il n'avait recueilli que 2 à 3% des voix. Il a soutenu le président Amadou Toumani Touré et s'est rallié au second tour en 2013 à Ibrahim Boubacar Keïta avant de devenir l'un de ses virulents détracteurs. Avant même d'être nommé, M. Maïga a cherché à rassurer les signataires de l'accord de paix de 2015 et les partenaires du Mali, affirmant que son pays respecterait ses engagements tout en estimant que les invectives, sanctions et menaces ne feraient que compliquer la situation.
La France ferme les robinets à la République centrafricaine. Paris annonce le gel de son aide budgétaire et la suspension de sa coopération militaire avec Bangui. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Paris reproche à la Centrafrique d'être complice d'une campagne anti-française téléguidée par les Russes. Selon le ministère français des armées, les autorités centrafricaines ont pris plusieurs fois des engagements qu'elles n'ont pas tenus, tant sur le plan politique envers l'opposition que sur le comportement vis-à-vis de la France, qui est la cible d'une campagne de désinformation massive en RCA. Paris indique que les Russes n'y sont pas pour rien, mais les Centrafricains sont au mieux complices de cette campagne. Déjà fin avril, les 5 coopérants militaires français qui étaient en poste au ministère centrafricain de la Défense ont été rappelés à Paris. Les entraînements militaires prodigués aux forces armées centrafricaines par des troupes stationnées au Gabon ont été interrompus, a précisé le ministère. La France continue néanmoins de participer à la mission européenne en Centrafrique et aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. La France était intervenue de 2013 à 2016 en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris, mais la Russie a opéré une entrée remarquée dans cet ancien pré-carré français en livrant des armes au FACA début 2018 avec un important contingent d'instructeurs. En décembre dernier, la Russie a dépêché des centaines de paramilitaires au secours de l'armée centrafricaine alors que le pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra était menacé par une rébellion.
Le ministre nigérian des Affaires étrangères a assuré hier que des discussions sont en cours avec Twitter, suspendu vendredi par les autorités d'Abuja pour une durée indéterminée. Michel Joseph fait le point.
Il y a des discussions avec Twitter et nous verrons les progrès qui sont faits. Je ne sais pas combien de temps va durer cette suspension, a déclaré Jeffrey Onyeama à l'issue d'une réunion à huis clos avec les ambassadeurs de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada qui avaient déploré auparavant la suspension de Twitter. Vendredi soir, le gouvernement nigérian a annoncé la suspension de Twitter pour une durée indéterminée, accusant ce réseau social d'avoir une mission suspecte. Puis, l'organe national de régulation audiovisuelle a demandé hier à toutes les radios et télévisions du pays de suspendre tout soutien à Twitter en supprimant immédiatement leurs comptes et qualifiant l'usage de ce réseau social comme un acte anti-patriotique. Cette décision est intervenue après la suppression, mercredi par Twitter, d'un message du président Muhammadu Buhari qui menaçait de traiter, et je cite, avec un langage qu'ils comprennent, les responsables des violences dans le sud-est du pays, souvent attribuées à des séparatistes Igbo, ce qui a ravivé les terribles souvenirs de la guerre du Biafra qui avait fait plus d'un million de morts à la fin des années 60.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Sénégal, un collectif d'habitants de Dougar, à une trentaine de kilomètres de Dakar, a déposé une plainte pour obtenir l'arrêt des travaux de construction de maisons par l'entreprise Peacock Investment. Le collectif affirme que les terres concernées par un ancien décret étaient situées sur le site de la gendarmerie à Diamniadio et que la société, avec l'aval de l'administration, a fait déplacer les terrains sur Dougar. En République du Congo, le programme Ville Résiliente a été lancé lundi à Owando par le maire de la commune, Michel Elenga Ekobo, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Raoul Mateus Paula. Le chef-lieu du département de la Cuvette sur la rivière Kouyou bénéficiera du volet assainissement urbain. Le projet cible également la ville de Nkaï dans le département de la Bouenza et une vingtaine d'écoles. En République démocratique du Congo, des étudiants de l'université de Kinshasa ont créé la start-up Kraft Paper Company, spécialisée dans la fabrication d'emballages biodégradables. Le pays produit plus de 48 000 kilos de déchets plastiques par jour, selon l'ONU Environnement. La commercialisation des sachets en plastique se poursuit malgré le décret de 2017 interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sacs et autres emballage en plastique.
Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Suite à des matchs amicaux sur le continent à la faveur des journées FIFA, décidément, la République centrafricaine n'y arrive pas. Battue 2-0 par le Rwanda vendredi, les fauves du Bazoubangui sont encore tombés hier 5-0 face aux Amavubi rwandais à Kigali. Le Rwanda se met ainsi en confiance avant le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022. Prévu en septembre prochain, les Rwandais affronteront le Mali, l'Ouganda et le Kenya. La Centrafrique jouera le Nigeria, le Cap-Vert et le Libéria. Toujours en amical à suivre ce soir, Bénin-Zambie à Cotonou, Gambie-Togo à Antalya en Turquie, tout comme Guinée-Kosovo. Le Maroc reçoit le Ghana à Rabat, le Sénégal joue le Cap-Vert à Thiès. Le Cameroun et le Nigeria croisent les crampons à Vienne en Autriche et le Mozambique fait face à l'Iswatini à Maputo. Transfert, le latéral international sénégalais Youssouf Sabali s'est engagé pour 5 ans avec le Betis Séville. Sabali, 28 ans, formé au Paris Saint-Germain, puis passé en prêt par Evian Tonongaya et Nantes, évoluait depuis 5 ans à Bordeaux, club avec lequel il a disputé 150 matchs, inscrivant un but contre Lens en mai dernier et délivrant 17 passes décisives. Latéral polyvalent, il a reçu en cours de saison une offre de prolongation de Bordeaux qu'il a déclinée pour découvrir la Liga et le Betis où il retrouvera deux anciens pensionnaires de la Ligue 1, le milieu Nabil Fekir et le défenseur algérien Aïssa Mandi. International français dans les catégories de jeu, notre champion du monde de moins de 20 ans avec la France en 2013 a opté en 2017 pour le Sénégal où il compte 21 sélections. Tennis, avec les nouvelles de Roland Garros, Rafael Nadal a fermement renvoyé à ses études la jeune pépite italienne Jannik Sinner 7-5, 6-3, 6-0 en 2h17 pour atteindre les quarts de finale du tournoi parisien. Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzman pour une place dans le dernier carré. L'Espagnol, 35 ans, est lancé à la conquête d'un 14e sacre à Roland Garros et d'un 21e trophée record en Grand Chelem. De son côté, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a mis la main sur la partie et se dirigeait inexorablement vers la victoire quand l'Italien Lorenzo Musetti a abandonné, mené 6-7, 6-1, 6-0, 4-0. Finaliste 2020, Djokovic vise un 19e titre du Grand Chelem pour se rapprocher du record de Roger Federer et Rafael Nadal qui compte 20 titres chacun. Le Serbe affrontera en quart un autre Italien, Matteo Berrettini. Ce dernier a bénéficié du forfait en huitième de Roger Federer qui a annoncé dimanche son retrait du tournoi pour se préserver physiquement en vue de la saison sur gazon et de son principal objectif, Wimbledon, prévu du 28 juin au 11 juillet prochain.
Merci Yakuba. Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'est devant plusieurs ambassadeurs, les forces politiques, la société civile, les religieux et les groupes armés signataires de l'accord de paix que le colonel Assimi Goïta a prêté hier serment au Centre international de conférence de Bamako. Dans son discours, il a appelé à l'union et a promis la tenue des élections aux dates indiquées. Mais ce qui a surtout retenu l'attention, c'est sa promesse de réduire le train de vie de l'État. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est lui, devant Dieu et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain.
C'est après ces mots que le tout nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été renvoyé à l'exercice de ses fonctions par les membres de la Cour suprême. Passé la cérémonie de prestation de serment, le nouvel homme fort du bateau Mali a pris la parole pour décliner ce qui s'assimile à sa feuille de route pour les 9 mois restants. S'il a insisté sur l'union sacrée autour du pays, il a promis de réduire le train de vie de l'État.
Je m'engage également à la réduction du train de vie de l'État. D'ores et déjà, j'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président, 3,8 millions annuels aux aides socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaire.
Cette décision, longtemps réclamée et attendue par les Maliens, a été bien accueillie par les forces vives, notamment celles des partis politiques, qui y voient un signal fort pour aller vers le Mali courant. Ensuite, Mohamed Traoré, membre de la coalition des forces patriotiques.
Dans ce discours-là, nous retenons 2 aspects, pour ne pas dire 3. Il parle beaucoup de la cohésion, de l'inclusivité et de la diminution du train de vie de l'État. Nous en avons besoin, nous avons tout le temps demandé à ce que le train de vie de l'État soit diminué, notamment lors du dialogue national inclusif, ça a été beaucoup demandé. Si aujourd'hui le nouveau président de la transition nous met sur ce terrain-là, je pense que ça va être une très bonne chose pour la République future.
Massivement présent, les membres des groupes armés signataires qui ont eu un entretien avec Assimi il y a quelques jours en présence de Choguel Koukala Maïga ont été rassurés quant à la mise en œuvre, mais de façon intelligente, de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Ataï Ag Mohamed, membre de la CEMA.
Oui, c'est un discours quand même court, concis, avec des assurances sur à la fois les élections prochaines, pour que l'on puisse passer à une phase démocratique, et ensuite sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il l'a dit clairement. Puis pour lui, une des batailles sera la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Comme une prescription pour soigner le mot qui affecte le grand corps malade qu'est le Mali, la rencontre avec les syndicats pour sursoir aux grèves a été prise en compte dans le discours de Assimi Goïta. Dédé Ousmane, responsable syndical.
Tenir des propos comme quoi nous allons impliquer tous les partenaires sociaux pour qu'on puisse aplanir les différents et assumer vraiment les responsabilités vis-à-vis des partenaires et de mettre les travailleurs dans les conditions minimales de travail, ça vraiment c'est des propositions et des propos qui nous rassurent.
Les alentours du Centre international de conférence de Bamako étaient bondés de monde, tous venus témoigner leur soutien au colonel Assimi et pour une réussite de la transition. Conformément à la charte de la transition, Assimi Goïta a promis de respecter les échéances prévues pour les différentes élections. Juste quelques heures après cette cérémonie de prestation de serment, l'information de la nomination de Choguel Koukala Maïga du M5-RFP au poste de Premier ministre a été rendue publique. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Les Maliens attendent beaucoup de leur nouveau président de la transition après la prestation de serment du colonel Assimi Goïta. Quelques réactions recueillies par Mariam Kouyaté, notre correspondante à Bamako.
Ce qui est en train de faire présentement, c'est pour moi, c'est d'organiser, bon, les gens, certains diront que c'est trop, mais c'est d'organiser une assise nationale et identifier les priorités de l'ère, les priorités actuelles, à savoir le référendum, le redécoupage structural et immédiatement organiser les élections présidentielles, législatives et les autres élections vont attendre.
Bon, je pense qu'Assimi aura beaucoup de choses à faire. Parce que la première des choses à faire, d'abord, il doit faire face à la grève de la plus grande centrale démocratique du Mali, à savoir l'INTM, dont les doléances ne sont pas encore satisfaites à 100%. ensuite former un gouvernement d'union nationale.
Déjà, il est investi, donc nous espérons que les choses vont bouger, puisque actuellement, presque tout est à l'arrêt. On a besoin de la démocratie vraiment, dans tous ses compartiments.
Il a quand même tenu un discours relativement court, dans lequel il n'a pas fait beaucoup de promesses, hormis le fait que voilà, il va réduire le train de vie de l'État et aussi rassurer les partenaires. Et maintenant, ce qui est attendu de lui, c'est immédiatement de mettre en place un gouvernement qui va faire face aux différents défis qui se présentent déjà à la transition, notamment à faire de telle sorte que le climat social soit apaisé, faire en sorte aussi que les partenaires reviennent.
On peut dire que c'est le début de la seconde phase. On espère que cette phase sera la bonne cette fois-ci. Présentement, il s'agira de se mettre au travail, parce qu'il sait que le temps est déjà compté. On est à 9 mois de la fin du chutement donné par la CEDEAO. Donc il s'agit maintenant de mettre en place un gouvernement à la hauteur, de mettre à côté vraiment les petites querelles de personnes, les histoires de parenté ou de proches, vraiment de mettre les gens capables de travailler.
Sincèrement, il doit vraiment respecter le peuple et travailler avec le peuple pour que le Mali nouveau puisse vraiment surgir.
Depuis combien d'années les mêmes discours on nous tient, tout le monde sait faire de beaux discours.
Mais il n'y a pas d'acte.
C'est la justice qui doit d'abord être premier.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
50 ans de mission et de révolte, de rupture et de polémique font aujourd'hui de MSF une institution incontournable. Créée en 1971, l'ONG Médecins sans frontières fête son cinquantenaire. Des victimes du Biafra au droit d'ingérence, Bernard Kouchner, l'un des cofondateurs de cette association humanitaire, raconte l'épopée de la petite organisation devenue aujourd'hui incontournable dans le sauvetage des vies humaines à travers le monde entier. Yacouba Ouédraogo.
Il faisait partie d'un groupe de jeunes médecins de la trentaine qui avaient des rêves plein la tête et l'ambition de soigner le monde. Dans le tourbillon qui suit, le mouvement étudiant de mai 1968 en France, Bernard Kouchner et une petite bande de médecins tout juste sortis de leur fac découvrent les horreurs de la guerre civile au Biafra, au Nigeria, où ils ont été envoyés par le CICR.
Nous étions partis avec le CICR, Croix-Rouge internationale. Et si nous avons décidé, parce que vous savez, on signait un document qui était « on ne témoignera pas de ce qu'on a vu ». Et nous, nous voulions témoigner de ce qu'on avait vu pour les enfants du Biafra. Et il fallait, je l'ai dit, essayer de prévenir et qu'on respecte les conventions de Genève, qui étaient l'apanage de la Croix-Rouge internationale.
De cette volonté de parler au monde entier des souffrances humaines qu'ils ont vues et vécues, naît Médecins sans frontières en 1971. Ces jeunes idéalistes à l'époque décident de se porter au secours des populations vulnérables partout dans le monde. Seulement voilà, sur le plan juridique, ça coince. Comment venir au secours des personnes sur les fronts de guerre sans un accord préalable des autorités des pays concernés qui évoquent le droit de non-ingérence reconnu par l'ONU? Il fallait alors faire appel au droit international qui change.
Nous avons fait voter des résolutions qui parlait du droit d'accès aux victimes et qui ensuite disait « c'est à la communauté internationale d'aller vers les victimes sans demander l'avis des gouvernements qui sont censés représenter les victimes ou les causer, sans qu'on le dise ». Voilà, c'est un truc très simple, c'était médical aussi. Alors ça a marché plus ou moins, ça a eu un retentissement mondial, ça a fait changer le droit.
Leur épopée s'écrit depuis au gré des tremblements de terre, des famines, des épidémies ou des conflits qui défigurent la planète. À 81 ans, Bernard Kouchner se souvient encore de certaines horreurs.
Je pense à beaucoup de victimes qu'on n'a pas eu le temps de tirer d'affaire. Je pense aux yeux des gens qui nous faisaient confiance et la confiance n'a pas été toujours suffisante. Mais vous savez, c'est simple à dire et un peu enfantin. Un seul être suffit quand vous lui avez apporté un peu de bien-être et peut-être sauver la vie.
Des souvenirs vivaces parmi tant d'autres qui illustrent l'impressionnant travail humanitaire de cette petite association, devenue aujourd'hui un géant, récompensé d'un prix Nobel en 1999. sous le chapeau du MSF international, les 25 sections nationales emploient 61 000 personnes, dont 41 000 déployées sur le terrain d'une centaine d'opérations dans près de 75 pays.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le Burkina encore en deuil après l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2015. Des individus armés ont pris d'assaut le village de Solan dans le nord-est, faisant au moins 160 morts. Un bilan macabre qui vient rappeler que ces groupes sont plus actifs que jamais dans le Sahel, malgré les mesures prises dans ces pays et au niveau régional. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance des groupes djihadistes au Burkina Faso? Quelle réponse face aux groupes armés? Comment sont pris en charge les populations déplacées par l'insécurité? Nous discuterons de tout cela ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique, VOA.
Maintenant, pour changer un peu, des milliards de cigales ont réapparu dans l'est des États-Unis après 17 années passées sous terre. Elles seront visibles pendant 4 à 6 semaines, particulièrement dans la région de Washington. Un chroniqueur du Washington Post raconte leur histoire et invite ses lecteurs à faire de même. Reportage de Laurel Bauman de la VOA et récit d'Eric Manirakidza.
Here's one, right here.
Il y en a une juste là.
Are you afraid?
Avez-vous peur?
Non, parce qu'elle ne mord pas, elle ne pique pas. Elle te regarde droit dans les yeux.
John Kelly est chroniqueur pour le Washington Post. Depuis des décennies, il étudie et écrit sur les insectes, notamment les cigales.
Je suis fasciné par la façon dont la cigale fait ce qu'elle fait, la vie étrange qu'elle mène. Elle vit sous terre pendant 17 ans et d'une manière ou d'une autre, elle sait quand sortir. Et ce n'est pas seulement une cigale, mais des milliards et des milliards de cigales qui reçoivent le message en même temps et commencent à ramper vers le haut. Et alors, c'est comme dans un film de science-fiction. Elles sont sous une forme, elles s'accrochent à un arbre et se transforment en une autre forme. Et elles sortent de leur coquille, comme dans les films d'extraterrestres, puis elles s'envolent.
Dans toute la partie est des États-Unis, des milliards de cigales sont réapparues après 17 années passées sous terre. Le son des mâles qui s'accouplent est grandiose, mais assourdissant. Monsieur Kelly est tellement convaincu que ses concitoyens de Washington partagent sa fascination. Il a lancé à ses lecteurs un concours de poésie sur les cigales.
Ces poèmes ne cessent d'arriver. Tout comme les cigales, ils sont sans fin. En voici un qui me plaît. Mon but dans la vie était de m'accoupler. J'ai chanté pour qu'une femme sorte avec moi. Ma chanson a fait que le voisinage m'a détesté. Et puis un écureuil est venu et m'a mangé. Je pense que les meilleurs poèmes vont être drôles. Ils vont être intelligents et peut-être ils seront poignants. J'espère des poèmes qui mettent en valeur le fait que les cigales ont une vie inhabituelle la plupart du temps sous terre et remontent à la surface que pendant quelques semaines et qu'elles tirent le meilleur parti de leur séjour sous terre. Et je veux des poèmes qui explorent le caractère poignant de cela. Et comment peut-être nous pourrions apprendre quelque chose des cigales, que nous devrions vivre notre vie au maximum dans le bref temps que nous avons sur cette planète aussi.
Des centaines d'inscriptions ont afflué pour le concours de poésie de Kelly sur les cigales. Le gagnant ou la gagnante verra son poème publié dans le Washington Post, un hommage approprié à cette créature unique qui s'accouple et meurt en quelques semaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en bande. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages, le Facebook, Twitter et Instagram, pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.